En France, les crises sanitaires et économiques ont aggravé la précarité de millions de personnes. À la Fondation Caritas France, nous avons une conviction. La précarité n'est pas une fatalité. Nous soutenir, c'est s'engager pour une France plus fraternelle et proposer des solutions durables et innovantes pour les plus fragiles d'entre nous. Faites un don sur fondationcaritasfrance.org et bénéficiez d'une déduction fiscale. Fondation Caritas France, au plus près de ceux qui s'engagent.
France Inter,
première radio de France. Et il est 10h sur France Inter. Le Flash vous est présenté par Laetitia Gaillet. Bonjour.
Bonjour, ils sont arrivés un peu avant 6h ce matin à l'École supérieure de journalisme de Lille. Une cinquantaine d'étudiants bloquent donc les accès de l'ESJ. Les CRS ont été déployés, ils ont chargé deux fois, situation tendue. À Grenoble, une manifestation est prévue aujourd'hui sur le campus où se trouve Sciences Po. À Paris, le débat en interne hier a abouti à une incompréhension de part et d'autre. Des étudiants ont entamé une grève de la faim. Les locaux de Sciences Po sont donc fermés aujourd'hui. Le mouvement pro-palestinien des étudiants commence à tendre et à essaimer un peu partout en France. Vous, Timur Özturk, vous êtes en direct de Sciences Po Paris. Et on cherche Timur Özturk, qu'on va retrouver sans doute dans quelques secondes. Pas du tout. Eh bien, je continue alors. Le chiffrage des dégâts causés par la grêle en Bourgogne, selon le président de la Fédération de défense de l'appellation Chablis aujourd'hui, 1000 hectares de vignes ont été touchés, soit un sixième du vignoble chablisien. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, affirme lui ce matin que la solidarité nationale doit se mettre en œuvre à travers les assurances. Elles sont soupçonnées d'avoir filmé une scène de violence, une adolescente rouée de coups et de l'avoir diffusée. Plusieurs collégiennes ont été interpellées cette semaine à Sochaux dans le Doubs. Celle qui a porté les coups est âgée de 14 ans. Elle doit être présentée au parquet aujourd'hui. Elle a été exclue définitivement de son collège. Les faits remontent à mars. L'autoroute A6B est toujours fermée dans les deux sens ce matin sur la portion au sud de Paris, Porte d'Italie, Cachan dans le Val-de-Marne. Il y a eu un incendie dans le tunnel de Bicêtre. Ça devrait être comme ça toute la matinée. Le temps de parcours jusqu'à l'aéroport d'Orly est donc rallongé. On n'a toujours pas retrouvé Timur Özturk, donc on va continuer. Côté sport, il y a un match nul partout. La qualification en finale de la Ligue Europa de foot n'est pas gagnée. Donc pour l'OM, les Marseillais devront s'imposer chez les Italiens de l'Atalanta Bergame la semaine prochaine. Il y a un garçon important qui va manquer la demi-finale de retour de la Ligue des champions de foot avec le PSG et surtout l'Euro de foot cet été. Lucas Hernandez, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche à l'issue de son match contre le Borussia Dortmund. Il y a des handballeurs qui ont tout perdu. Montpellier et le PSG qui ont été éliminés hier soir de la Ligue des Champions. Il y a Monaco qui est au pied du mur ce soir pour le match 4 de l'Euroleague. Obligation de gagner contre les Turcs de Fenerbahçe pour espérer accrocher le Final Four. Dans les échos des JO, la déconvenue pour les volontaires de Paris 2024. Les volontaires en l'occurrence russes et belarusses. Ils ont été choisis dans un premier temps comme bénévoles. Puis, ils ont été rejetés pour des raisons sécuritaires. J'ai réalisé que je représentais un danger majeur pour la France, dit une femme de 31 un an, qui travaille actuellement pour une grande entreprise française. Enfin, il y a des mots d'une joueuse qui font penser quelque part à Zlatan. Sakina Karchaoui, qui vient de re-signer pour 4 saisons au PSG, à l'équipe, voilà ce qu'elle dit. Il y a eu des propositions des plus gros clubs d'Europe, même des États-Unis. J'ai énormément de valeur. Je suis une cadre du PSG. J'essaie d'apporter mon expérience. Je suis une joueuse internationale. Karchaoui, sûr de sa valeur. Et en même temps, bon, bah alors est hors de s'en priver. 10h04 sur Inter.
Demain sur France Inter, la course à l'espace dans On n'arrête pas l'écho.
Samedi 9h, Alexandra Ben Saïd.
Dernière ligne droite avant le vol inaugural d'Ariane 6. Jusqu'où l'Europe peut-elle revenir dans le jeu, résister à SpaceX? Le président d'Ariane Espace, Stéphane Israël, est mon invité.
On n'arrête pas l'écho, l'actualité et les coulisses de l'économie.
Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 9h.
Avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, arrivent à faire rimer ces nouveaux avec comment ? C'est déjà en promo ? Jusqu'au 27 mai, profitez de jusqu'à 15% de réduction sur la nouvelle gamme de fenêtres PVC et d'un financement 20 fois sans frais. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Offre de crédit affectée 20 fois sans frais, valable du 2 au 27 mai pour tout achat de 1500 à 15 000 euros. Après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur lapair.fr.
France Inter, partenaire des Pestacles UGC. Jusqu'au 23 juin, tous les dimanches, venez découvrir ou redécouvrir 12 grands films pour petits spectateurs dans 33 cinémas UGC partout en France. Un nouveau rendez-vous familial pour faire vivre la passion du cinéma et éveiller la curiosité des enfants à partir de 4 ans. Mon voisin Totoro, Ernest et Célestine, ou encore Là-haut, Wally, Coco et Le Chant de la Mer. Les Pestacles UGC, un événement France Inter.
C'est grand bien vous fasse sur France Inter et c'est avec Gollum. Il n'y a plus de voix, c'est ça ?
Bonjour, vous avez perdu Timur Öztürk, moi j'ai perdu ma voix.
Ouais,
on est bien là.
Bon courage hein pendant une heure là.
Merci beaucoup.
Moi ça va, j'avais 4 minutes. Hein.
Allez, à tout à l'heure, à 11h. Bonjour à toutes et à tous, pardonnez-moi, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse loisir, plaisir et curiosité, le club du vendredi qui tente d'enchanter votre vie quotidienne. Et il est venu le temps des barbecues sur son balcon ou dans son jardin, coup de projecteur sur cette cuisine qui ne se réduit pas à griller des merguez, des chipolatas ou des côtes de bœuf. De l'apéro au dessert, les possibilités sont infinies et même les véganes et les végétariens peuvent se régaler en osant ce type de cuisson. Avec nous, deux cadeaux du barbecue, Big T et Raphaël Guillot, alias Rafa, mais aussi notre chef maison, Grégory Cohen. J'attends vos questions sur le barbecue au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 ainsi que sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Théodore Dillerin.
Bonjour Ali.
Libraire au comptoir des mots dans le 20e arrondissement de Paris. Votre choix littéraire, c'est un polar saignant?
On peut dire ça comme ça, ou plutôt noir comme le charbon qui reste à la fin du barbecue.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, qui dit barbecue dit braise, enfin pour tous les barbecues qui ne sont pas au gaz ou électrique. Et donc moi je vous propose une petite philosophie des braises.
Bonjour Guy Méthodicino.
Bonjour Ali.
Alors qui deviendra,
bonjour Ali, pardon.
Qui deviendra notre ami cette semaine ?
Alors c'est un grand dadé, un peu dingue et très sentimental. Enfin, c'est un malade, mais je suis complètement folle de lui, vous verrez.
Et vous allez m'aider ce matin ?
Alors oui, enfin, ça dépend, ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux au fur et à mesure des mots.
C'est ça, oui.
Mais je veux bien prendre le relais de temps en temps.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Bande annonce de votre chronique avec la langue.
Eh bien, qui dit barbecue dit invité, dit conversation, dit enjeu. Tenir la conversation, intéresser les gens, devenir le héros de sa propre vie. Comment raconter des histoires en y mettant du style épique, grotesque, voilà, on fera un petit panorama.
Et veuillez pardonner cette voix étrange ce matin.
Là,
bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Mesdames et messieurs, la côte de bœuf.
Ah, ah,
oh, oh. Voilà, c'est parti.
Elle est top, génial, camion.
Elle est bonne, camion.
Elle est pas,
mon secret.
Une bonne braise.
Ah,
bon,
ah oui, il est fort, Riva.
Ouais.
Il a posé la viande sur le feu, et à un moment donné, waouh, il a retourné la viande. Alors que moi, bah, je me suis tapé les courses, hein, j'ai passé l'aspirateur, j'ai rangé toute la maison. Et pourquoi t'as pris ce sol ? T'as une vraie salière,
non ? Barbecue.
Pas très bien, ça, barbecue, on peut manger par terre aussi.
Non, tu peux ramener la moutarde ?
Extrait du film Barbecue. Bonjour Raphaël Guillot.
Bonjour.
Alias Rafa, vous animez le blog lebarbecuedeRafa.com et vous publiez un livre de recettes alléchant barbecue, les meilleures recettes de Rafa chez Mango Édition, mais aussi le guide pratique du fumoir chez Thierry Soucard Édition. Bonjour Thierry Cornuet, alias Big T.
Bonjour.
Vous êtes chef juré au championnat de France de barbecue, le créateur d'une école de barbecue, la BBQ School, et vous avez plusieurs restaurants, notamment à Nice. Et vous publiez chez Marabout un livre tout aussi alléchant, L'Art du Barbecue. Et avec nous également Grégory Cohen, bonjour.
Bonjour Ali Rébéi.
Chef du futur One Place à Rungisville, 5 restaurants thématiques qui ouvrent début juin. Alors, pourquoi cette passion dévorante pour le barbecue ? Big T, vous l'écrivez dans votre livre, vous célébrez un art primaire culinaire.
Oui, en fait, bonjour à tous, hein, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, moi je revendique cet art primaire culinaire au même titre que les cuisines du monde. Pour moi, tout a commencé autour d'un feu et partout à travers le monde. Et en fait, en toute humilité, je revendique ces valeurs pour donner ces lettres de noblesse dans mon univers que je pratique au quotidien, dans mes établissements. C'est pas juste une méthode, c'est aussi une assimilation où on peut vraiment intégrer le feu sur des thématiques, mais aussi sur une qualité de produit.
C'est un art de vivre.
C'est une philosophie. C'est une philosophie dit au détriment de ma femme qui se plaint que quand je rentre mon parfum sent le charbon, comme tous les gars qui font des barbecues. Mais au-delà de ça, oui, c'est une philosophie. C'est une humilité parce que le feu c'est vivant, donc c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et donc voilà. Donc j'essaye à mon niveau de revendiquer ces nettes de noblesse et d'en faire quelque chose incroyable.
Alors vous, Rafa, vous êtes ostéopathe de profession. Le barbecue c'est votre passion et vous défendez-vous l'idée d'utiliser le barbecue toute l'année? Et c'est un voyage au Québec en 2012 qui a changé votre vision du barbecue.
Oui, exactement. En fait, quand j'avais été au Québec, il y avait 1 mètre de neige et puis on avait fait des ribs ultra fondantes, on avait fait du saumon sur planche de cèdre. Et quand je suis revenu en France, j'ai dit, comment ça se fait que dans le pays de la gastronomie, on va faire saucisses, brochettes, côte de bœuf pour les plus téméraires 2 mois dans l'année. Et je me dis qu'on pouvait faire vraiment quelque chose de sympa. Donc j'ai commencé à poster un petit peu comme ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, on peut vraiment faire toute l'année. Et il y a des viandes à mijoter, des viandes à griller. Donc il y a aussi une saisonnalité au niveau des viandes.
D'où vient cette passion du barbecue?
Ben justement de ce voyage-là, et puis je pense d'avoir envie de faire plaisir. C'est-à-dire que vraiment, quand y a mes amis, c'est vraiment, on va tester toute la semaine, on va réfléchir à une recette, on va la faire le week-end, et là, c'est l'éclat total le week-end.
Grégory Cohen. Ah, j'adore ce jeu. Hein. Ah,
mais j'adore je trouve fou que Ali ne mue que maintenant, quand même.
C'est tard, finalement. C'est l'éternelle jeunesse, très cher. Donc, Grégory Cohen. Alors, ça, c'est une question extrêmement importante, oui. Surtout posée par une femme. Quel barbecue choisir? L'offre est pléthorique. Alors, Rafa, vous défendez le barbecue à couvercle. Mais quels sont ses avantages? Et Big T, est-ce qu'il existe des barbecues au charbon, électrique, au gaz, des barbecues bras zéro, plancha? Pitié, comment choisir? Comment on se retrouve au rayon barbecue?
Ok, donc c'est une question qui est assez large. En fait, il y a des barbecues pour tout le monde. Il y a des barbecues du monde, d'ailleurs, qui sont aussi même différents. Il y a même des barbecues japonais avec des bichotan.
Pardon.
Des bichotan, c'est en fait le charbon, qui est un charbon spécifique qu'on peut remettre dans l'eau est réutilisée, donc il a une vertu de recyclage qui est assez intéressante. Moi, j'ai initié mes filles au barbecue, parce que le barbecue, c'est pas que pour les gars, c'est aussi pour les filles. Enfin, c'est pour tout le monde, d'ailleurs, le barbecue. Alors, après, ça dépend. Il y a le barbecue où on a envie de passer un petit peu de temps, on va mettre du charbon, il va falloir gérer sa flamme et sa braise. Et un barbecue, en fait, il faut l'imaginer comme une zone de cuisson où je peux avoir une partie qui va être très très chaude et une partie qui va être plus douce en termes de feu. D'un côté pour saisir et de l'autre côté pour cuire lentement. Puis il y a les barbecues électriques, ça on peut les faire aussi, on peut les avoir chez soi facilement. Et puis enfin, ceux qui sont aujourd'hui peut-être les plus utilisés, c'est les barbecues à gaz.
Rafa, vous défendez le barbecue à couvercle, hein?
Oui, en fait, le couvercle, c'est vraiment sympa parce que déjà, ça va garder l'humidité à l'intérieur, ça va éviter que la chaleur se disperse, donc on va pas chauffer l'air ambiant, mais vraiment le barbecue. Et on va pouvoir utiliser 2 types de chaleur, donc une chaleur déjà par radiation, c'est-à-dire je mets mon aliment au-dessus des braises, ça cuit, mais également par convection. Donc je mets mes braises à droite, à gauche, rien au milieu, et la chaleur va taper sur le couvercle, va retomber sur l'aliment. Et donc, ça veut dire que c'est comme un four à chaleur tournant. Donc, rôti, poulet, gâteau au chocolat. On peut vraiment tout faire grâce à un barbecue à couvercle.
Big T, au rayon barbecue, comment s'y retrouver?
Alors, il y a une telle évolution aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait des leaders d'opinion et des leaders sur le marché. Aujourd'hui, on se rend compte que il y a une vraie évolution dans l'approche, la technicité et surtout où il y a une identification qui se fait par rapport au produit. On a des leaders dans le pelet aujourd'hui. On a une société qui s'appelle Traeger, qui est extraordinaire, qui fait un produit mais tout simplement magnifique avec une autonomie, une constance de chauffe.
En fait, citer d'autres petites marques. Hein, quand
oui, bien sûr. Je cite tout, hein, vous savez, je ne suis pas... Et en fait, il y a trois paramètres quand même.
Il y a Weber aussi, de Foucault comme autre marque.
Ouais.
Yamadojo, Big Green Egg, voilà. Napoléon.
Master.
Mais en fait, il y a trois paramètres qui sont indissociables quand même. Il y a la qualité de la chauffe, la qualité de l'exécution et le savoir-faire. Ça, c'est indissociable. On parle de barbecue, mais avant tout, ce qu'il faudrait parler, c'est la qualité de la chauffe. Parce que la chauffe, c'est la base de tout. Et aujourd'hui, il y a une vraie évolution qui fait au niveau des chauffes. Donc, les chauffes constantes, aussi bien dans du charbon de bois, parce que quand on parle de charbon de bois, c'est la base, hein, il faut un charbon de bois de qualité avec un carbone assez élevé pour avoir une chauffe de 180 degrés pendant une heure et demie, c'est faisable. À l'époque, moi je me rappelle, quand tu faisais un barbecue au charbon de bois, tu voyais le mec, tous les deux minutes, il était en panique, il mettait l'eau, ça partait dans tous les sens. Aujourd'hui, on a des maisons extraordinaires qui donnent une qualité chauffe incroyable.
Vous êtes adepte du barbecue électrique, Raphaël ?
En fait, c'est toujours ce que je dis, c'est que pour faire un Paris-Marseille, on peut le faire en deux chevaux ou en Lamborghini. Mais on va arriver peut-être pas dans le même temps ou avec le même confort. Donc on peut tout faire, les recettes, avec n'importe quel type de barbecue. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas utiliser le barbecue. Mais on peut quand même se faire un petit peu plaisir si on a juste une petite terrasse dans un appartement parisien.
Et comment donner cet inimitable goût fumé avec un barbecue électrique ou à gaz ?
Alors ce qu'il faut vraiment différencier, c'est le goût grillé. Les gens se trompent entre le goût grillé, c'est-à-dire je dépose l'aliment, ça fait une réaction de Maillard, la caramélisation des protéines, tout ça, et le goût fumé. Et le goût fumé, c'est vraiment le goût du bois. Donc pour ça, on peut venir prendre une petite feuille d'aluminium ou une smoker box, on appelle ça une boîte de fumage. On met quelques copeaux de bois à l'intérieur, on dépose ça sur les brûleurs ou juste au niveau de la grille. Ça va chauffer, ça va donner un bon goût de bois et on aura et le goût de griller des grilles en contact avec l'aliment et le goût fumé du bois qui est en train de se consumer.
Alors, on peut mettre des copeaux de bois, ça c'est des copeaux spécifiques pour le fumage, ou alors on peut prendre des herbes aromatiques, simples aussi, ça, on a tout ça chez soi, et on peut allumer nos herbes aromatiques pour créer ce fumage.
15 minutes, ouais.
Julie Neveu.
Non, mais c'était ma question. C'était que le feu, je me demandais si finalement on pouvait vraiment restituer, s'il n'y avait pas un goût qui était attribuable spécifiquement à la flamme qui est en dessous, mais vous êtes en train de dire non, quoi.
Alors, un goût feu.
Oui, un goût feu.
C'est ça. Le goût feu, en fait, c'est le gras de l'aliment qui va se transformer de l'état liquide, qui va tomber sur une source de chaleur et qui va se pulvériser pour passer à l'état gazeux.
Ah ouais.
Et c'est justement ça. Donc, que ça tombe sur de la braise, que ça tombe sur un brûleur d'un barbecue gaz ou quoi, c'est vraiment cette transformation du gras liquide au gras gazeux.
Après, tu peux avoir le goût charbon si tu oublies ta viande.
Alors, Rafa,
oui,
quels sont les accessoires indispensables ? J'adore poser une question sur les accessoires, vu que je suis l'accessoire d'Ali Rebelli. Quels sont les accessoires indispensables ? Alors, c'est le coup de la pince, la spatule, le pinceau, les... Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Les brochettes, le thermomètre
Alors, pince, spatule, les grands
ignifuges. Ça coûte cher, ces trucs-là, ou pas ?
Non, franchement, alors, ça peut coûter très cher, mais franchement, la base de la base, c'est vraiment super simple. Moi, il y a un accessoire qui va vraiment tout révolutionner dans ce que j'appelle le barbecue moderne, le barbecue 2.0, c'est-à-dire pas juste deux parpaings et une grille posée dessus, c'est l'utilisation du thermomètre pour le barbecue. C'est-à-dire que on peut pas vous dire une côte de bœuf, ce sera 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, ça va dépendre de l'épaisseur, du taux de gras, de si le barbecue il est à 180, 200, 250 degrés. Par contre, on sait que à 50 degrés de température interne, la côte de bœuf sera saignante. Et il y a même des thermomètres qui sont connectés au téléphone pour profiter de l'apéro, blablabla. Mais au moins, on sait qu'à 50 degrés, on n'est pas obligé d'ouvrir la côte de bœuf, que tous les jus tombent dans la cuve et on est parfait. On n'aura plus de poulet calciné parce qu'à 74 degrés, n'est-ce pas, Ali ? C'est la température interne à l'intérieur, 74 degrés. Le porc 65 degrés, etc. Chaque aliment a son degré de cuisson
parfait.
C'est
le même thermomètre qu'on prend pour les rôtis dans nos fours.
Oui,
c'est
voilà,
même,
on peut piquer comme ça, mais dans le barbecue, il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas le régler comme un four. Ça, ouais.
Allez, dans un instant, des recettes au barbecue pour tous les goûts. Ce sera juste après les petits plaisirs de la semaine.
Au plaisir et bon amusement.
Merci.
Alors, merci.
Thibaut, je rappelle que vous êtes le président fondateur du Paris Podcast Festival. Et votre petit plaisir, c'est le podcast Kink, un magazine culturel.
Oui, Kink, c'est un magazine culturel, vous l'avez dit. Donc, c'est tous les 15 jours, une heure, un podcast donc, qu'on peut donc écouter sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit. Et Kink, c'est donc un magazine culturel animé par Camille Diao. Alors, Camille Diao, vous la connaissez si vous regardez l'émission, notamment C'est ce soir. Donc, chroniqueuse, journaliste et animatrice régulière de cette émission. Et elle est entourée de jeunes chroniqueurs. Alors, il est possible que vous ne les connaissiez pas. Moi, je ne les connais pas tous. Ce qui est intéressant dans ce magazine culturel, c'est que, évidemment, les sujets, les chroniques, sont sur une actualité culturelle qui parfois passe un peu sous les radars. Et donc, ça vient en fait compléter exactement ce que tous les médias, les grands médias peuvent proposer. Et ça donne en fait une compréhension, une lecture de l'époque qui est assez passionnante. Voilà, Kink, c'est donc un podcast tous les 15 jours produit par Sonic, qui est un studio de podcast. C'est gratuit sur toutes les applis, les bonnes applis de podcast. Et voilà, vous allez voir, c'est une discussion très libre, très chaleureuse, très fraîche, et ça nous renouvelle donc très agréablement le genre de ce magazine culturel.
Théodore, votre kiff cette semaine, c'est ce moment de partage entre amis au Portugal et à La Rochelle.
Ah bah ouais.
Et moi, ça se voit, vous avez bonne mine.
Eh ben, vous avez vu ce bronzage incroyable. Ouais, moi c'est ça, mon petit plaisir de la semaine, ça a été de lever le pied, de passer du temps avec les gens que j'aime. Alors avec mon amoureuse et des copines, on est allé au Portugal, on a vécu dans un petit village. Tous les matins, on allait prendre le café, j'ai appris quelques mots de portugais, on a fait des barbecues. Alors on était plutôt sur les deux parpaings, la grille et le bouche charbon, parce qu'on jouait aux cartes et on prenait l'apéro pendant que la viande grillait et on l'oubliait complètement. Et ensuite, je suis parti dans ma famille à La Rochelle lire la rentrée littéraire d'août, parce qu'on a quelques mois d'avance et on commence déjà à recevoir les bouquins qui vont sortir à la rentrée d'août. Se balader au bord de l'océan et ne rien faire.
C'est bon ça.
C'est beau.
Guimette, la tribune des hommes qui soutiennent le mouvement MeToo dans le magazine Elle, ça vous a fait un bien fou.
Ah oui, c'est un bien fou et c'était surtout un « enfin ». Eh ben, hein, ils ont mis du temps. Alors heureusement, parce qu'il existe donc un mathématicien qui est compagnon d'Anouk Grimbert, de la comédienne, qui a demandé, donc il est mathématicien, mais il a demandé à 100 hommes de signer une tribune pour soutenir le combat des femmes contre les violences sexistes et sexuelles. Alors quand on compte dans cette tribune, il y a des scientifiques, il y a des artistes, et il y a quelques hommes du cinéma. Alors, je suis très contente de cette tribune, mais je précise juste qu'il y a quelques hommes du cinéma. Il y en a une petite poignée, hein, pour être tout à fait honnête, mais bon. Mais donc, grand merci à Jacques Audiard, à Jérôme Bonnel, à Éric Elmosnino, à Reda Kateb et à quelques autres qui ont signé cette tribune qui est magnifiquement rédigée et qui commence, enfin, entre autres, par, contrairement à ce qu'on lit parfois, nous ne pensons pas qu'on s'acharne contre les hommes. Prendre conscience du vécu de l'autre, de sa perception de rapport de force, vieux de millions, de milliers d'années, c'est intéressant et source d'ouverture. La pratique de l'égalité est désirable, elle n'enlève ni la liberté, ni le plaisir, mais les accroît, elle embellit les relations. Ah, merci messieurs.
La tribune des hommes soutenant MeToo, c'est à lire dans... Elle. Julie, votre petit plaisir, c'est l'expo Brancusi à Beaubourg, à Paris.
Voilà, ce sculpteur roumain qui, donc, il y a une belle expo en ce moment à Beaubourg, et c'est aussi l'occasion d'aller à Beaubourg avant que le centre ne ferme, parce qu'il va fermer pendant 5 ans totalement, de 2025. À 2030. Et donc, cette expo est super complète. On voit vraiment d'abord les sources d'inspiration. Quand il arrive à Paris au début du XXe siècle, il travaille un peu avec Auguste Rodin. En fait, il trouve ça très ennuyeux. Ça lui apprend simplement un contre-modèle. Donc, c'est marrant. On voit comment il retravaille déjà, il s'émancipe. Puis, on voit comment il passe de formes un peu figuratives à des formes de plus en plus stylisées, notamment avec des portraits. C'est assez drôle. Il travaille aussi à la frontière entre le masculin et le féminin. Il y a une sorte d'œuvre très, très étrange qu'il fait en 1915. Qui s'appelle Princesse X, qui ressemble en fait à un phallus, quoi, dressé, mais tout le monde s'est interrogé, ça a été banni des salons, c'était jugé obscène, etc. Et en fait, c'est qu'il est intéressé pour aller au-delà, le mouvement, l'humanité, les animaux, à la fin, il fait des phoques et tout, et c'est vraiment très beau.
L'expo Brancusi à Beaubourg, 10h23, c'est l'heure de lire avec Théodore Dillerin de la librairie Le Comptoir des Mots. Alors, Théodore, vous nous conseillez la saine lecture de Dead Stars de l'américain Benjamin Whitmer chez Gallmeister. Et ça se passe en 1986 dans l'état du Colorado, c'est ça?
Absolument, Ali. Ça se passe en 86 à une époque où Reagan est président des États-Unis depuis je crois que c'est 81 son élection, enfin début des années 80. Et d'ailleurs, sa photo est encadrée dans la cuisine de Hack Turner, qui est le personnage principal de ce roman et qui travaille dans une usine. Parce que ce qui importe aussi, c'est où ça se passe. Ça se passe à Plainview, une petite ville construite autour d'une usine qui, elle, s'appelle Stonewall et où on manie du plutonium et d'autres matières plutôt dangereuses. Alors au début du roman, Hack, notre personnage principal, reçoit un coup de fil de sa fille, Nat, 17 ans, son gamin. a disparu. Enfin, le gamin de Hack, Randy, qui a 14 ans, il est allé en vélo, à vélo, au vidéoclub. Et Hack, son frère Whitey et Nat vont commencer leurs recherches, mais peu à peu, toutes les portes se ferment. Parce qu'il se trouve que ce personnage principal, il a parlé à un journaliste des conditions de travail à l'usine et que toute la ville lui en veut. Alors, c'est une intrigue assez classique au départ, et on se dit qu'avec une disparition d'enfants et une course contre la montre qui est lancée, on va être dans un bon thriller haletant, un page-turner. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Dead Stars, c'est l'anti-page-turner. Il y a une lenteur du récit. Benjamin Whitmer prend son temps. L'intrigue, presque, on pourrait dire, passe au second plan, parce que l'intérêt du texte, il est ailleurs. Il va être dans la langue. Magnifique, grandiose, très très bien traduit par Jacques Maillos, qui est le traducteur régulier de Benjamin Whitmer. C'est son 5e roman traduit, c'est toujours le même traducteur et il y a un énorme travail de traduction, donc merci monsieur Maillos. Et la beauté, elle est aussi dans la noirceur du quotidien, la noirceur des relations familiales compliquées et cette noirceur abyssale qui se mêle à une violence crue. C'est un petit peu, Julie parlait de Beaubourg tout à l'heure, comme les toiles de Soulages, j'y suis allé récemment et on y va. Il y a plusieurs épaisseurs de noirceur, d'où va sortir une petite lumière, mais qui reste quand même très faible. Et puis derrière ça, c'est la fin du rêve américain. Je parlais de Reagan tout à l'heure, mais cette Amérique perdue est complètement délaissée. Aujourd'hui, ils ont des autocollants pour Trump derrière leur pick-up. Et c'est un petit peu la même rengaine. Ça nous parle aussi de l'Amérique d'aujourd'hui. Parce que le slogan de Reagan, quand il a été élu, il faut pas l'oublier, c'est « Make America Great Again ». Et ça pend au nez des élections qui vont arriver en octobre.
Rappelez le titre.
Dead Stars, donc les étoiles mortes, mais c'est le titre anglais qui est conservé pour la traduction française, de Benjamin Whitmer, publié chez Gallmeister.
Merci Théodore Dillerin, on peut venir vous voir au comptoir des mots dans le 20e arrondissement de Paris, c'est métro Gambetta, c'est ça ?
Métro Gambetta, 239, rue des Pyrénées.
Allez, il est temps de retrouver Guillemette et son ami du vendredi.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter ?
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux, je peux te conseiller.
Alors Guillemette, qui deviendra notre ami cette semaine ?
J'aurais adoré dire, alors Guillemette, que deviendra... Enfin, j'aurais adoré faire les deux en même temps. Bien.
Alors... schizo de plat.
Oui, oui, schizo complète. Alors, chère Ali, par exemple, vous voyez, je serais bien en peine de choisir mon personnage préféré de la série Friends. Ça, c'est impossible. Mais en revanche, dans How I Met Your Mother, la série un peu similaire qui débuta en 2006, un an après l'arrêt de Friends, c'est pas difficile de dire que c'est Marshall le meilleur. Dans ce merveilleux sitcom sur l'amitié à travers le temps, où en 2030, Ted raconte à ses deux enfants comment il a rencontré leur mère, Marshall est le meilleur ami de Ted. Alors c'est vraiment un meilleur ami de compète, hein. Même si le type, il faut l'admettre, est quand même un grand malade. On s'en aperçoit un peu au fur et à mesure, en fait, de la série. Marshall Eriksen, c'est un poème. Alors par exemple, il est très superstitieux, donc il lèche l'avion avant le décollage pour que celui-ci ne s'écrase pas. Enfin, ça, c'est un exemple parmi mille. Hein. Non seulement il commente tout ce qu'il fait, mais en chantant. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit « Je suis en train de faire une chronique », vous voyez, et toute la journée, c'est insupportable. Il est imbattable aux jeux de société, même quand il dort, au point d'en avoir inventé un, le « Marsh Gammon », qui incorpore les meilleurs éléments de tous les autres jeux, bon, à l'exception évidemment du backgammon. Il est capable de se rasser la moitié du crâne le jour de son mariage ou de ramener un opossum à la maison. Très aimant, très confiant, extrêmement émotif, il peut pleurer d'émotion quand il mange. Il a d'ailleurs un goût très 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 particulier pour le gouda. C'est un truc qui revient tout le temps dans la série. Et surtout, il croit à tout. Mais il croit vraiment à tout. Il croit à Bigfoot, au loup-garou, au fantôme, au monstre du Loch Ness, et surtout, il croit à Lily, la femme de sa vie, sa moitié. Ce grand sentimental prononce la réplique sur le couple. Ouais, j'ai peur de tout, mais quand je pense que je vais rester le reste de ma vie avec Lily, ça me fait plus peur du tout. Je vais épouser cette fille.
Alors, pardon Guillemette, mais quel est le rapport entre ce grand dadé de Marshall Eriksen, un peu allumé, et le barbecue ?
Un épisode entier, voilà le rapport, l'épisode 13 de la saison 7. Nous sommes un an après la mort du père de Marshall, et mon ami a pris l'avion pour retourner dans le Minnesota, sur sa tombe. Alors quand il était gamin, son père faisait toujours un barbecue pour le match de football américain des Vikings contre les Bears. Alors Marshall a donc apporté son barbecue sur pied, à couvercle, hein, et son poste de radio au cimetière, pour perpétuer la tradition.
Il va être bien, là, tranquille, avec papa, il va pouvoir discuter avec lui. Il enfile le vieux tablier de barbecue du paternel. D'ailleurs, il le renifle en disant « Ah, 30 ans de graisse et d'allume-feu !» Il déballe les steaks, et voilà que débarque son frère Marcus, qui a eu la même idée. Bon, puis débarque le troisième frère Eriksen. Puis un autre type, qui lui avait l'habitude d'écouter le match avec sa tante Laura, qui est enterrée dans la tombe d'à côté. Et puis après, il y a encore d'autres gens qui arrivent. Et d'ailleurs, ce type lui demande si Marché pouvait mettre 2-3 hamburgers sur le feu pour un peu tout le monde, ce serait sympa. En fait, voilà finalement le cimetière envahi d'une bonne vingtaine de personnes qui se passent les paquets de chips de Marshall et qui finissent même par décapsuler leur bière sur la pierre tombale de Papa Eriksen. Ce petit moment d'intimité s'est transformé en barbecue géant avec un gros supplément de sauce nostalgique. Hein. Et alors, qui rallume les braises sociales et les souvenirs d'enfance.
Thibaut de Saint-Maurice.
Eh ben merci Guillemette, ça donne envie de revoir toute la série. Mais je vous lance un petit défi. Le personnage préféré de How I Met Your Mother, c'est Barney Stinson.
C'est pas parce que Thibaut de Saint-Maurice a un petit truc physique, il ressemblait un peu à Barney.
C'est ça le truc. Le gars se lance des perches.
Non. Le meilleur. Bah on fait un appel aux auditeurs.
On en parlera hors antenne. Et la série How I Met Your Mother est visible notamment sur Disney+. Vous pouvez également l'acheter en DVD et Blu-ray. Merci Guillemette. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Joachim Taïeb et Cyrine Ben-Younès, avec l'aide de Charles Thierry. À la réalisation, Claire Destacan et Josépha Lebrun. La programmation musicale, Valentine Chedebois. Merci aux documentalistes, aux standardistes et aux techniciens qui se sont succédés toute la semaine. Dans un instant, quelques recettes au barbecue de l'entrée au dessert. Ce sera juste après avoir écouté Madonna, Into the Groove, une chanson sortie en 1985, 10h30 sur France Inter. Madonna, Into the Groove.
Eh, vous ferez gaffe avec le barbecue, j'ai senti des gouttes.
France Inter.
D'ailleurs, pourquoi tu prends pas une plancha?
Grand bien vous fasse.
Moi j'ai une plancha, c'est super une plancha. Écoute, on a mis ça à l'intérieur, ça pue pas la plancha, prends-toi une plancha.
Ali Rébi.
Et ce matin, dans Grand Bain vous fasse loisir, plaisir, curiosité, des idées de recettes au barbecue pour changer de la côte de bœuf. Dans vos livres respectifs, Bicti, Rafa, il y a beaucoup de viande quand même. Est-ce que le barbecue est réservé aux viandards ?
Alors,
Bicti.
Alors en fait, moi, le livre sur lequel je me suis inspiré, en fait, c'était de ne pas tomber dans cette facilité justement. D'aller dans cette facilité en tant que Nord-Américain, de faire ce qui se fait en
classique. Vous êtes à moitié canadien.
Voilà. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment d'apporter de l'apéro dessert, d'accord, avec de la créativité, de la facilité, et surtout donner de l'accessibilité aux produits pour que les gens puissent réaliser les recettes sur n'importe quel type de barbecue. Et pour moi, comme le fait Rabat également très très bien, c'est de donner cette accessibilité et cette créativité où en fait on peut aller très loin dans la démarche avec un peu de technicité et surtout d'apporter des choses un peu différentes. Ouais.
Rafa ?
Oui, alors en fait, ça me fait toujours rire un peu ces discours-là, parce que est-ce qu'une cocotte minute, c'est féminin, masculin ? Est-ce que le barbecue... Non, en fait, le barbecue, c'est une cuisinière d'extérieur, donc tout ce qu'on fait à l'intérieur, on peut le faire à l'extérieur. Moi, je suis un viandard, j'adore ça, mais dans mon livre, moi, je suis pas un chef, je suis un amateur passionné, donc en fait, il y a toujours 3-4 ingrédients, 3-4 points très très simples, et l'idée, c'est de vraiment pouvoir transcrire tout ce qu'on fait dans la cuisine. On parlait des rôtis, des poulets, etc., mais ça peut être les quiches, les gâteaux au chocolat, également, dans le barbecue, donc entrée, plat, dessert, et même les cocktails, pourquoi pas, avec des sangria de fruits grillés au barbecue.
Mais moi, alors, paradoxalement, j'adore faire le poisson au barbecue. Alors, déjà, parce que le poisson, donc quand on va chez son poissonnier, on va demander un poisson et on va lui demander de pas enlever les écailles. Les écailles, ça va être la protection du poisson. Et c'est le seul plat qu'on peut faire au barbecue où on peut se permettre d'avoir ce goût un peu brûlé, c'est-à-dire les écailles vont être brûlées, on le met directement sur le feu, mais la chair va pas être brûlée. Mais elle va avoir ce petit goût un peu fumé pour le coup, un peu barbecue, et ça c'est assez génial. N'importe qui peut le réussir. En fait, il suffit que les écailles soient brûlées, et là on sait que c'est cuit. Et puis après, travailler avec le barbecue, comme on l'a dit tout à l'heure, le barbecue c'est un centre de cuisson, donc ça peut être autant un four que de la cuisson directe, de la cuisson indirecte, fermée, ouvert, on peut vraiment s'amuser.
Tiens, deux messages. Annie qui nous écrit: succès du barbecue, facile à expliquer, un bon moyen pour les femmes de mettre leur mec au turbin. sauf que le barbecue, c'est assez mauvais pour la santé, en tout cas comme il est pratiqué par le français moyen. Et Anne qui nous écrit: désolé de critiquer Ali, j'aime beaucoup votre émission, mais le barbecue, ça ne doit pas être tous les jours ni même toutes les semaines, parce que viande rouge plus réaction de Maillard égale ami du cancer du côlon. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Raphaël?
Alors moi je dis totalement, mais c'est-à-dire que si on fait des saucisses, qu'elles soient calcinées au barbecue ou à la poêle, elles sont calcinées. Donc l'idée, c'est vraiment de donner, à travers ma chaîne YouTube, maintenant le blog va fêter ses 11 ans là, de montrer les bonnes pratiques, que justement on va aller jusqu'à un certain point, il faut pas que ce soit carbonisé, la cuisson indirecte, c'est je mets mon aliment à côté des braises, donc si je fais un magret de canard, le gras va tomber dans la cuve, il va pas tomber sur les braises, il y aura pas des grosses flammes, donc vraiment les bonnes pratiques. Et ils ont raison de dire, mais si c'est calciné, que ce soit au four, à la poêle ou au barbecue, c'est toujours mauvais.
Big T.
Alors moi je suis un peu je suis restaurateur, donc j'ai la chance de recevoir à peu près plus de 30 000 à 40 000 clients par année. Donc en fait, c'est comme tout, je pense qu'il faut avoir de la réserve surtout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben à un moment donné, on le voit, les gens consomment mieux mais moins. C'est-à-dire que moi je me rends compte en fait que quand les gens viennent manger chez nous, ils se prennent une belle pièce de viande, mais ils vont pas la manger toutes les semaines. Et je pense qu'on est dans cette approche-là, c'est donner la qualité de l'exécution et permettre aux gens. Mais après, c'est comme tout, hein.
Guillemette.
Oui, alors je voudrais pas plomber l'ambiance. Alors, en fait, Ali m'a filé la question qui plombe l'ambiance.
Ouais. Ouais, évidemment.
Alors, donc,
j'aime bien la réserve de départ. Je voudrais pas plomber l'ambiance.
Mais comme dirait Frédéric Segri dans Blockbuster, donc le barbecue comme symbole de virilité, évidemment. Bon, on pense à Sandrine Rousseau, hein, je la cite en 2022.
Il y en a qui aiment pas.
Pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Bon, alors comment on fait pour que, effectivement, se débarrasser le barbecue de toute cette cet emballage de virilisme, de chair, de viande, de graisse.
Non, en fait, vraiment, on peut tout faire. Hein. On peut mettre des aubergines grillées directement sur la cendre, récupérer, faire un caviar d'aubergine. Il y a pas de limite, en fait, au barbecue. Donc, pourquoi on va dire qu'un barbecue, c'est masculin? Alors, ça veut dire quoi? Une cocotte minute, c'est féminin? C'est comment? Non, en fait, il y a absolument rien à voir là-dedans. C'est ce que l'on fait à l'intérieur. Et donc, nous, notre idée, c'est d'apporter des desserts, des légumes, de vraiment tout faire au barbecue.
Big T?
Oui, alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une histoire de passion. Je pense que c'est comme tout. Il y a une approche, qui est très féminin en ce moment. Et moi, vous voyez, je fais le quintal. Hein. On me voit pas, mais je suis quand même relativement, hein, tu vois. Big T, c'est pas juste un surnom. Et en fait, moi, je suis dans mon approche de la cuisine. J'ai une cuisine très accessible où j'aime ce côté gourmet. Et souvent, quand j'ai des femmes à l'école de barbecue, parce qu'on a beaucoup de femmes à l'école de barbecue, eh ben, elles amènent une créativité et une dimension, une approche complètement différente. On est moins sur l'authenticité, le côté brut, et on a cet esthétisme qui est un peu plus porté. Mais le barbecue, c'est fait pour tout le monde, à portée de tout le monde.
Grégory Cohen.
Alors, je pense qu'il faut dissocier deux choses. Un, le côté viandard, qui était très décrié aujourd'hui, trop de viande, excès de viande, etc. Le barbecue, on peut cuire exactement tout ce qu'on veut. Le barbecue, c'est l'origine de la cuisson. Hein. C'est le moment où on découvre le feu et que d'un seul coup, au lieu de manger du cru, bah, on mange du cuit. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et donc c'est ce retour-là. Puis c'est le retour au plein air. Et c'est le retour où on va partager avec plein de monde. Alors on a tous les films américains où dans les arrière-cours les gars qui sont en train de faire le barbecue. Enfin ça c'est des films qui datent des années 60-70. On a largement évolué. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes filles, c'est elles qui font le barbecue. Hein.
Allez, les recettes... En entrée, qu'est-ce que vous proposez, Rafa ?
Alors moi, on peut vraiment faire plein de choses, juste des os à moelle par exemple, mais on peut faire des choses aussi plus féminines, notamment utiliser son barbecue comme un grille-pain. Vous y avez déjà pensé ça ? En prenant une belle tranche de pain et en faisant des bruschette, des petites tartines. Donc on va les faire griller, on va les frotter ensuite avec un petit peu d'ail, un petit peu d'huile d'olive, un peu de tomate également. On peut rajouter du fromage, de la mozza, on peut rajouter des petits champignons. On va remettre au barbecue pour faire gratiner tout ça, une petite feuille de basilic, et on va se régaler avec une petite salade, c'est magnifique.
Big T, en entrée.
Alors, moi, je suis très très fort, j'adore tout ce qui est l'apéro, donc tout ce qui est rillette, tout ce qui est, tu vois, les œufs mimosa fumés, je fais. Et moi, j'ai une recette que je s'affectionne parce que c'est une recette qui est relativement rapide. Je mets alors, en plus, je suis feignant, donc c'est parfait.
C'est des rillettes de thon fumé.
Rillettes de thon fumé. Donc, en fait, c'est rien de compliqué. Je prends ma canette de thon à l'huile, hein, je précise, parce que l'huile est un capteur de saveur, donc qui permet d'aller chercher le fumage. Donc, je monte en température mon huile avec mon thon à l'intérieur et je crée une base aromatique. Donc, comme expliquait Yuri tout à l'heure, donc vraiment une base aromatique de saison. C'est important de travailler les herbes de saison aussi avec un samouraï, un fromage frais, et je viens travailler par contre en accessoirisation. Je travaille sur des pains grillés toastés avec des pains avec des noix de pécan pour donner ce côté un peu torréfié au pain, et je viens mettre ma rillette dessus, et là avec un verre de blanc de Provence, bien sûr,
avec modération. Grégory Cohen, votre entrée.
Oui, un chou-fleur rôti, on va commencer par blanchir son chou-fleur, ensuite on va le mettre dans du papier cuisson, puis du papier aluminium, on va le mettre dans son barbecue, tête à l'envers, c'est-à-dire les fleurs vers le bas pour qu'il caramélise un petit peu. Une fois qu'il est cuit, et ben là on l'accompagne de crème de sésame qu'on va détendre avec un petit peu de jus de citron et de l'eau tiède pour avoir un petit coulis doux dessus, ou alors on peut aussi faire un petit peu de fromage blanc, ciboulette, et puis utiliser ça en petit dips. C'est hyper bon.
Très très bonne idée, le chou-fleur grillé. En plat principal, Rafa, votre recette de poulet à la bière donne très envie. Alors, c'est quoi la recette ?
Alors, l'idée, c'est que...
C'est de la provoque, là.
Non, c'est quelque chose vraiment de très simple, de très régressif. C'est tout simplement de prendre un poulet et on va mettre un mélange d'épices sèches que l'on met dessus. Donc, on appelle ça un rub. C'est un mélange d'épices. Donc, le mien, c'est du sopasco avec sel, paprika, un peu de sucre, de l'origan. On va masser tout ça. Ça va faire une croûte à l'extérieur.
Avec de l'huile ?
Alors non, on peut mettre de l'huile déjà pour bien les faire adhérer au poulet, mais juste en les massant comme ça. Et on va lui mettre une canette de cul, une canette de bière dans... vous avez compris.
Exactement.
Et en fait, il va tenir dessus comme un trépied.
On va expliquer, t'es allé un peu vite là-dessus quand même.
Vous plantez, dans le croupion.
Dans le croupion, exactement.
Oui, on va mettre le poulet sur la canette.
La canette de bière à cet endroit-là, et il va tenir debout en trépied, et ça va éviter que l'air ne rentre à l'intérieur, ça va faire que la bière à l'intérieur...
Faut ouvrir la canette et vider un peu de bière.
Et du coup, ça va venir infuser l'intérieur du poulet, et ça va donner un blanc qui sera vraiment bien humide, et ce sera absolument pas sec.
Barbecue plus bière, c'est très grand bien vous fasse ça.
On est à fond dedans. Là, on est...
Est-ce que la canette saute en l'air quand c'est cuit?
Non, absolument pas.
Big T, vous proposez en plat principal une joue de bœuf braisée.
Oui, moi j'adore donc les cuissons low and slow. J'aime les cuissons lentes parce que il y a ce côté fondant de la viande. Donc en fait, moi je travaille beaucoup sur les cuissons lentes. Donc en fait, c'est des joues de bœuf. Donc déjà en trois étapes. Donc je fais fumer mon lard. Donc je vais faire infuser dans mon vin rouge. Ensuite, bon, c'est des joues qu'on va vraiment dégraisser en laissant un petit peu et on va partir sur des cuissons lentes entre 6 et 8 heures.
Ah oui. 6 à 8 heures au barbecue?
Au fumoir. Moi, je l'ai fait fumer, ouais, directement. Donc, je travaille sur des offsets. Donc,
quoi les offsets?
C'est des barbecues américains. C'est vraiment le berceau de la civilisation américaine. C'est là que tout a commencé avec un barbecue comme ça.
Et ça ressemble à quoi?
C'est deux cuves. C'est des cuves, en fait. C'est des cuves où, en fait, vous avez une partie où vous avez ce qu'on appelle les firebox où on travaille sur le feu et une cuve où, en fait, où c'est une chaleur tournante. Et ça permet de jouer avec des variations de température. C'est un peu technique, mais par contre, quand c'est maîtrisé, c'est très bon. Donc, je fais ça avec un écrasé de pommes de terre à la truffe. Une mâche patatose, hein. Donc je vais pareil fumer mes pommes de terre et je vais pousser même des fois un peu loin. Je fais une injection de Jack Daniel's dans les pommes de terre. Donc,
C'est donc, l'incarnation du consommé avec modération.
Les grands bien bouffants, ça.
Donc j'injecte un peu de Jack dedans et écoutez, ça fait rigoler quoi.
Un peu plus, un peu plus bien-être aussi.
Du rhum.
Poisson barbecue.
Oui, alors on va prendre un poisson qu'on mange. Alors ça peut être un filet de saumon par exemple ou de cabillaud, peu importe. On va le mettre dans un papier sulfurisé, on va le poser sur un papier sulfurisé et puis à l'intérieur, on va mettre des légumes. On va mettre des fenouilles, des petits fenouils, on va mettre des petites tomates, des petits oignons, on va mettre une branche de romarin, un petit peu de thym, un filet d'huile d'olive. On referme notre papier sulfurisé, on le remet dans du papier aluminium et on le place dans notre barbecue. On va avoir une cuisson, on enlève un petit peu les braises du milieu pour qu'on ait une cuisson indirecte, on referme, on a comme dans un four à l'étuvée. En 15 minutes, c'est prêt, c'est nacré et les légumes ont cuit.
On passe au dessert. Rafa, vous proposez un ananas rôti façon steak.
Oui, alors ça, c'est quelque chose de vraiment très simple. Hein. L'idée, c'est de venir enlever la peau de l'ananas, de le couper comme la forme d'un steak haché. Hein. Donc, ça fait une rondelle. Et puis, on parlait tout à l'heure de mélange d'épices sèches. On peut également mettre ça, donc un petit peu, je sais pas, de 4 épices, de cannelle, de cacao, de sucre. On peut même également faire mariner ça dans du rhum, du beurre, ce que vous voulez. Alors, c'est très bien parce que... l'avantage avec le barbecue, c'est qu'ensuite on va faire griller ça comme des steaks. Hein. Donc là, quand on voit les marques de grille, c'est super et on peut même les faire flamber. C'est pour ça que le rhum est sympa. Donc on en met un petit peu dessus, on jette ça dans les braises et hop, ça vient flamber le tout.
Big T, votre dessert?
Alors, le crumble de fruits.
Il a changé. Il voulait faire un
autre chose. Je me suis dit, vu qu'on est sur le poisson, on va aller un petit peu dans ce côté-là. Donc, crumble de fruits, ouais. Donc, c'est un crumble que je fais à la poêle, dans des poêles de fonte. Donc, en fait, je vais travailler un petit crumble avec farine, donc farine, sucre et beurre mou. Donc, on va vraiment le travailler un peu comme un petit sablé. Je le rehausse avec un peu de vanille ou des écorces d'orange que je fais confire dans du miel. Comme ça rehausse un peu le tout. J'envoie ça 25 minutes au barbecue et je travaille sur des fruits de saison. Donc moi je travaille beaucoup énormément en fruits de saison, donc on vient faire un petit montage dans la poêle, donc on pose le crumble et après on vient le casser un petit peu, c'est esthétiquement très joli, puis après si on veut pousser la machine, on envoie un peu des boules de glace, mais je vois qu'on va... Hein.
Allez, ok, moi je vais donner une recette de clafoutis. Alors donc cette base de recette que je vais vous donner, vous pouvez la faire évidemment au barbecue, mais aussi sans problème au four. Il nous faut 100 g de farine, 40 g de beurre fondu, 80 g de sucre, 4 œufs, 25 centilitres de lait, de la vanille, du sel, et là on va prendre des myrtilles. On mélange le tout, on met ça dans un plat allant au four ou au barbecue, et on laisse cuire pendant à peu près trentaine de minutes. Ensuite on met du sucre cassonade et on caramélise. Ça marche au barbecue et au four.
Dans un barbecue à couvert, évidemment.
À couvert.
Allez, il est déjà temps à 10h47 de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'un télo la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Alors Thibaut, ce matin, vous nous proposez une chronique un peu spéciale, une petite philosophie des braises.
Oui, elle est un peu spéciale, mais au moins le point de départ est assez évident. Parce que qui dit barbecue, donc on l'a entendu, dit encore bien souvent braise de charbon de bois. C'est en effet la chaleur dégagée par ces braises qui permet de cuire. Alors que dis-je de cuire ? De griller tout ce que l'on va poser sur le barbecue. Le premier truc bizarre avec les braises, c'est qu'elles sont beaucoup moins impressionnantes que les grandes flammes des grandes flambées de cheminée ou des feux de joie, mais que pourtant elles sont plus chaudes. Elles dégagent une chaleur plus forte, plus uniforme, plus constante, mais sans brûler non plus. Le steak sur la grille cuit, alors que mis directement dans le feu, il brûlerait. Deuxième truc bizarre à propos des braises, c'est que là encore, tout discrètement, sans faire le bruit du feu qui claque, ni projeter la lumière de ces flammes, elles durent longtemps là où la flambée s'épuise rapidement. Il y a comme un paradoxe des braises, comme une douce puissance chère à Anne Dufour-Mantel, comme un équilibre caché, comme une sagesse secrète qu'il faudrait venir méditer le soir au coin du feu, les yeux dans les braises.
Et d'ailleurs, avec les braises, on ne sait jamais si c'est la fin ou le début.
Oui, exactement, et c'est là aussi un pas de plus dans le charme qu'elles délivrent. Les braises signalent la fin d'une flambée, mais sont aussi la possibilité de la prochaine. Elles maintiennent en elles la possibilité d'un feu à venir, d'un recommencement ou d'une continuité. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan, comme dit l'autre. Et c'est donc là toute leur puissance. Alors puissance au sens, attention gros mot, métaphysique. C'est-à-dire non pas du point de vue de leurs caractéristiques physiques, la chaleur, le mode de combustion, mais du point de vue de leur manière d'être. Alors c'est Aristote qui nous apprend à distinguer deux manières d'être pour les choses qui sont, être en acte et être en puissance. Une graine, par exemple, n'est pas encore une plante, mais elle est pourtant déjà la plante en puissance. Et puis l'adulte est en acte ce que l'enfant qu'il était, était en puissance. Cette différence entre acte et puissance, elle est essentielle pour penser la dynamique d'accomplissement de ce qui est, pour penser tout ce qui est, dans un état de perfection. Alors ça paraît un peu abstrait dit comme ça, mais pourtant c'est ce qui permet de comprendre que le monde, les choses, et même nous-mêmes par exemple, nous ayons à devenir pour être ce que nous sommes. La flambée contient en puissance les braises à venir, et les braises contiennent en puissance une nouvelle flambée. Il n'y a pas seulement l'être et le néant, mais avec les braises qui couvent, là, à nos côtés, tandis que nous méditons comme Descartes dans sa chambre, il y a entre l'être et le néant la possibilité de la continuité. Alors, faut-il souffler sur les braises ? D'ordinaire, ce n'est pas très conseillé. D'abord parce qu'on risque de brûler la viande qui grille, mais aussi parce que souffler sur les braises, c'est surtout prendre le risque de rallumer l'embrasement d'une colère ou d'un conflit. Mais ça peut aussi être l'occasion de raviver le feu d'un amour, d'une mobilisation ou de la vie, comme le propose par exemple le philosophe Baptiste Morisot dans son livre justement intitulé « Raviver les braises du vivant ». Voilà, les braises sont là, n'attendent finalement que nous pour finir de devenir tout ce qu'elles pourraient être. Leur puissance ultime, c'est d'appeler le souffle de notre engagement. Notre sagesse alors serait d'apprendre à ne pas nous brûler au feu de notre liberté.
Waouh, Guillemette.
Alors là, franchement, c'est vraiment très beau de partir des braises et de finir sur l'espoir. Le fait que en fait, c'est le feu de l'espoir qui continue de couver. Merci Thibaut.
Merci Thibaut de Saint-Maurice. Dans un instant, la chronique avec la langue de Julie Neveu. C'est juste après avoir écouté Éloi comme un animal.
Dans la nuit, danse comme un animal. Je souris Éloi comme un animal.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Enfin, pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Alors, ce matin, Julie, vous nous parlez des histoires qu'on se raconte et du genre plus ou moins épique.
Oui, allez, voilà, avec l'arrivée des barbecues, donc, petit exercice de style. Soit l'anecdote suivante, tirée de la vraie vie, pas la mienne, hein, mais je dis « je » parce que c'est plus pratique. On me prête une voiture pour aller à une fête un peu loin. Pendant la soirée, je me retrouve par inadvertance à fumer quelque chose qui n'est pas une cigarette. Je repars tard dans la nuit, dans la voiture, je ne trouve pas les phares sur le tableau de bord. Je m'arrête sur le bas-côté, je m'endors, un chien aboie, je me réveille. Style factuel, réaliste, je donne les faits de l'extérieur, une chronologie, je m'implique le moins possible, bref, j'ennuie les gens. L'histoire est un peu minable, je reste en tête à tête avec ma merguez. Ou alors j'amplifie, je grandis, j'exagère, je rends le décor dramatique. Je suis seule dans ma petite voiture dans la nuit épaisse, il n'y a que le brouillard de l'aube et moi. Là j'augmente le danger, la nature devient hostile, sauvage, le contexte épique. Épique relevant du genre de l'épopée, ce récit poétique à la gloire des héros, avec pour modèle antique l'Iliade et l'Odyssée, les très longs poèmes d'Homère. Le héros n'est pas un humain comme les autres, il a des capacités hors du commun. Par exemple je dis, l'herbe que j'ai fumée modifie mes perceptions. J'entends des bruits que d'habitude j'entends pas, je vois sans avoir besoin de phare. Et puis soudain, d'un coup, je suis prise d'un accès mystérieux et puissant de sommeil. Sans même que j'ai décidé quoi que ce soit, comme si la voiture avait pris le contrôle, je me retrouve sur le bas-côté de la route. Donc là, pas de logique, pas d'explicable, du mystère. Je ne dis pas « je m'endors », mais je perds conscience du temps. Je dis pas « un chien aboie, il me réveille », mais des hurlements sauvages déchirent le silence. J'ouvre les yeux et là, une sorte de créature féroce me dévisage. Je nomme pas les choses par leur nom, je lance l'imaginaire. Puis je suggère qu'il y a quelque chose à comprendre de plus qui nous dépasse. Je lance les esprits vers un sens allégorique, mystique. Tu vois, à ce moment-là, je comprends que toute ma vie m'a amenée ici, dans le face-à-face avec la créature. Et là, bah, je vends du rêve, quoi. Là, la merguez refroidit. Donc rien de tel qu'un style épique pour capter l'attention, surtout des enfants. Faire de la vie une aventure, du participe futur latin adventurum, ce qui doit advenir, le destin en marche, le futur qui découle d'une nécessité. Laure Grand Besançon, dans son podcast Les Odyssées, excelle en style épique. Elle parle ici de Vincent Munier, le photographe animalier.
Son corps a appris à parler le langage du froid. Toute son existence, il n'a fait que ça. Chercher et suivre la glace où qu'elle le mène, toujours plus au nord, toujours plus loin vers le monde sauvage.
Alors l'épique marche moins bien sur les adultes, qu'il peut éloigner. Plus personne n'ose manger sa saucisse à côté du héros. En plus, la vie passant, avec ses misères, les rêves de gloire qui s'étiolent, on se met à aimer les anti-héros. D'ailleurs, esprit français ou hasard de l'évolution d'une langue, en français donc, depuis environ la fin du 19e, épique a un emploi commun, inverse du sens littéraire. Il veut dire non pas héroïque, mais catastrophique. Comme dans la chanson de Léo Ferré de 1964, épique époque. Il y a eu un retournement ironique de l'adjectif. Un moment épique reste mémorable, mais parce que tout s'y passe mal, c'est de l'épique à l'envers, du grotesque. C'est un style aussi, et c'est peut-être pas mal pour un barbecue. Au lieu d'exagérer vers le haut, le noble, on exagère vers le bas, le familier, l'ignoble. Alors je re-raconte l'histoire. Je suis dans la caisse complètement défoncée, infoutu de trouver comment mettre les phares. Je galère en pleine purée de pois, et j'échoue sur le bas-côté de la route. Je pionce comme une épave sur le volant. Un vieux chien errant m'agresse. Bref, c'était une nuit épique. Du début à la fin du récit, je suis la loseuse. Je modèle ce que le théoricien allemand Hans Robert Jos appelait l'horizon d'attente. Les gens perçoivent la norme comique, la récurrence, j'amplifie, non pas pour me grandir, mais pour me rabaisser, pour en rire.
Merci Julie Neveu, merci aux amis du vendredi, Thibaut, Julie, Grégory, Théodore et Guimette. Merci Raphaël Guillot, Barbecue, les meilleures recettes de Rafa, c'est publié chez Mongo Édition et on peut vous retrouver sur le blog lebarbecuederafa.com. Merci Big T, l'art du barbecue, c'est publié chez Marabout. Je recommande vraiment vos deux livres, ce sont des mines de recettes passionnantes et d'informations. Et merci également Grégory Cohen. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien, présenté avec Agathe Le Caron. Et lundi, on s'intéresse au vrai pouvoir de l'hypnose et de l'auto-hypnose, des pratiques qui peuvent faire peur après l'affaire Gérard Miller.
De plus en plus jeune, le portable devient une addiction.
Pour les enfants,
comment dompter les écrans?
Hé, à Radio France, on a la solution. Les podcasts jeunesse. Oli, les instrus, les odyssées, salut l'info, les aventures de Tintin
plus de 3500 podcasts pour tous les enfants. Une offre de loisirs 100% gratuite et 100% sans écran à retrouver sur radiofrance.fr et sur l'appli Radio France.
Avec Radio France, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. AG2R, la mondiale, vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Bonjour Nagui.
Bonjour Ali. Aujourd'hui, nous allons évoquer la liste de mes